Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Montserrat. Vous savez qu'en ce moment j'ai quelques petits problèmes de santé. Je commence un traitement d'un peu longue durée et même si apparemment ça se soigne bien, avec l'âge qui avance, ça donne à réfléchir sur notre finitude. Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants et aux générations qui vont suivre? Vous savez que le premier désir des Français était, et peut-être l'est-il toujours, de devenir propriétaire de sa maison. Je pense que c'est un désir louable, quelque part, pour s'assurer un avenir stable, au moins pour notre logement. Et les enfants auront un bel héritage dans la pierre, mais auront-ils un héritage spirituel? Dans nos sociétés, qui pense à bâtir un héritage spirituel pour ses enfants? Alors on va lire ce matin un peu le testament de Paul. La première lettre à Timothée, le premier chapitre, on va lire. Vous savez que Paul était en prison à ce moment-là, il avait une soixantaine d'années. Bon, il n'était pas très vieux, mais pour l'époque, quand même. Et voilà ce qu'il écrit à Timothée. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, son esprit prie nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte. Car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison de Nésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Alors cette seconde lettre à Timothée, c'est la dernière que l'apôtre Paul a écrite. Elle était adressée à son fils spirituel, ami, et camarade de travail. Timothée travaillait alors dans l'église d'Éphèse. Alors au moment où il a écrit cette lettre, Paul était prisonnier à Rome. Ce n'était pas l'assignation à domicile dans laquelle se trouvait Paul dans la fin du livre des Actes, mais une incarcération qui trouve Paul lié et enchaîné, comme nous le montre le verset 16. Et de cet emprisonnement-là, il ne sortira jamais. Lui-même était conscient du fait que la fin approchait. Dans la suite de cette lettre, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et alors sa récompense l'attend. Pourquoi donc parler d'héritage ? Malgré ces circonstances, la plus grande préoccupation de Paul était l'avenir de l'Évangile. Après sa mort, qui maintiendra l'Évangile de Jésus pour lequel il va mourir ? Qui gardera l'héritage ? Paul, par cette lettre, donne cette charge à Timothée. C'est ce qu'on ressent à sa lecture. Comme s'il disait « Timothée, lorsque je serai parti, c'est à toi et aux autres après toi de garder l'Évangile de Jésus. » Et toute la lettre incite sur ce thème. Garder l'Évangile, travailler pour l'Évangile, continuer dans l'Évangile, protéger l'Évangile et proclamer l'Évangile. J'imagine que Timothée a été encouragé à la lecture de cette lettre de Paul qui a été, comme on vient de le dire, son camarade de travail, qui était aussi son mentor, un peu son chef, mais plus encore son ami et son père dans la foi. Un fait que Paul reconnaît bien puisqu'il l'appelle « mon enfant bien-aimé ». Dans les premières lignes de cette lettre, Paul assure Timothée de ses prières constantes, de son affection, de son désir de le revoir. Or, si ce matin on dit rien d'autre concernant l'amitié de Paul et Timothée, il reste certain qu'il est bon d'avoir des amis chrétiens qui se préoccupent de nous, qui prient pour nous, qui nous encouragent. Et vous avez remarqué que Paul n'encourage pas Timothée en lui disant des banalités comme « Timothée, tu sais, t'es un type formidable ». Il l'encourage en soulignant la foi vivante de Timothée. Et puis il l'encourage dans le travail auquel il a été appelé. Et dans le début de cette lettre, on trouve quatre choses qui nous encouragent aussi et qui peut-être nous lancent un défi. Premièrement, il y a l'encouragement à une foi vivante. Vous vous souvenez de l'épître de Jacques ? Une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Puis l'encouragement à la maîtrise de soi. Et après, c'est l'encouragement à aimer le travail pour l'Évangile et éventuellement les travailleurs. Et pour finir, l'encouragement à garder la vérité. Alors, l'encouragement à la foi vivante. Timothée a grandi dans un foyer chrétien. Luc, dans les livres des Actes, nous dit que Timothée était le fils d'un mariage mixte. Son père était grec et sa mère était juive. Sa mère, Eunice, était croyante, de même que sa grand-mère. On voit que les mamans et les grands-mamans ont une influence sur la foi des enfants. Paul peut dire de Timothée avec confiance que la foi qui habitait sa mère l'habite maintenant aussi. Ce jeune homme avait une mère croyante, une grand-mère croyante, et par la suite, il a trouvé la foi pour lui-même. Il arrive un moment où chaque enfant, de parents chrétiens, doit décider soit d'adopter pour lui-même cette foi, soit de la rejeter. Cela laisse une grande responsabilité quand même aux parents. Nous nous rendons compte que c'est en partie à eux de conduire leurs enfants vers la foi, par leurs paroles, par leurs actes, dans la famille, dans la vie, dans l'Église. Mais quand même, nous savons qu'il n'y a aucune garantie. Si nos enfants se détournent de la foi, ce n'est pas forcément à cause de nous. Mais enfin, Timothée, lui, a fait la démarche. Il est croyant, il a une foi vivante. C'est bien, c'est merveilleux, c'est fantastique, dit Paul. Mais maintenant, agis en fonction de cela. On revient à l'encouragement à la maîtrise de soi. Paul nous dit au verset 6 que Timothée a reçu un don de Dieu par l'imposition des mains. On n'ira pas plus loin que les Écritures en essayant de deviner quel était le don de Timothée. La Bible ne nous le dit pas. Mais le fait que Paul lui ait imposé les mains nous indique que Timothée a été mis à part, commissionné pour une tâche. C'était en effet, je crois, le départ de son service, de son ministère. Paul, par conséquent, fait référence, je pense, à ce ministère et au don qui lui est associé. Et je pense qu'on peut dire, sans trop de danger de se tromper, que ce don a été donné pour qu'il puisse s'acquitter de sa responsabilité dans l'Église. La Bible est claire sur le fait que Dieu donne à chacun et à chacune un don et un rôle à jouer. Pour en savoir plus, il ne faut pas chercher ailleurs que dans les autres épîtres de Paul, les autres lettres, en particulier celle destinée aux Corinthiens au chapitre 12. Alors jusqu'à maintenant, Timothée a une foi vivante et il a un don. La situation évolue bien. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Paul dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Or, Paul ne veut certainement pas dire que la flamme chez Timothée est éteinte. Mais qu'il veut voir cette flamme brûler avec de plus en plus de lumière, de vigueur. Qu'est-ce que cela veut dire? Simplement qu'il exhorte Timothée, nous aussi probablement, à développer et à utiliser tous les dons de Dieu. Les naturels et les spirituels. La parabole des talents dans Matthieu 25 nous montre cela à l'évidence. Timothée avait la responsabilité d'utiliser et de développer son don. Est-ce différent pour moi et pour toi? Pourquoi nous est-il demandé de développer et d'utiliser nos dons? Le verset 7 nous donne une réponse, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alors on peut facilement être effrayé. Il est facile de s'inquiéter au point de ne rien faire. Nous nous posons des questions. Suis-je assez bon pour ce travail ? Que se passera-t-il si je me trompe? Peut-être qu'on va me critiquer. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il n'y a donc aucune raison d'être effrayé pour utiliser et développer nos dons. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint a été donné aux disciples. c'est ce même esprit que Dieu nous a donné. Et on peut se souvenir que, juste après, Pierre a fait un discours étonnant. Pierre qui était quelqu'un de non instruit, un pécheur. L'esprit l'a rempli de force, l'esprit nous remplit de force. Soyons confiants quand nous utilisons nos dons, les dons qu'il nous a donnés. L'esprit nous remplit d'amour, il nous est dit. Alors utilisons nos dons pour la gloire de Dieu et pour servir les autres. L'égoïsme n'est pas permis. Puis il nous est dit aussi, l'esprit nous remplit de sagesse. Employons nos dons avec sagesse. Nous sommes qui nous sommes par la volonté et la grâce de Dieu. Mais sans travail, le don reste inefficace. Quoi que ce soit que Dieu nous ait donné, il nous faut l'appliquer avec un peu de discipline. S'appliquer à collaborer avec la grâce de Dieu pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes comme lui le veut. Enfin, Paul encourage à aimer le travail pour l'Évangile. Après avoir parlé de la foi et des dons, Paul se tourne vers le sujet du travail que fait Timothée et aussi de son propre ministère. Il n'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Pourquoi Paul dit-il « n'est donc point honte » Peut-être Timothée avait-il tendance à avoir honte. La honte, c'est un sentiment commun et c'est si facile d'y céder. Quand on arrive à parler de Jésus, de l'Évangile ou des autres chrétiens, on est rarement compris et approuvé. Notre monde est souvent indifférent à ces choses, quand il n'y est pas opposé. Et il nous considère comme un peu simplet et faible. La honte arrive quand on a à faire un choix entre Dieu, entre Jésus et le monde. Si on a honte de Jésus, c'est souvent qu'on a besoin, on a envie de l'approbation du monde. On cherche l'approbation de ceux qui sont autour de nous. On veut passer inaperçu, voire invisible. Témoigner de notre Seigneur n'est pas forcément une occupation facile ou amusante. Et on voit que pour Paul, ça a produit la souffrance, comme il l'a décrit au verset 12. Il donne un petit aperçu sur certaines de ses souffrances aux Corinthiens, dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 11. Parlant de ceux qui disaient qu'il n'était pas un très bon apôtre de l'Évangile, il dit, alors, 2 Corinthiens 11, « Sont-ils des ministres de Christ ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux bien plus. » Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril par les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Quel témoignage! Quel témoignage d'un homme qui est resté fidèle face à toutes ces difficultés incroyables. n'ayons pas honte du Seigneur ni de son message. Pourquoi ? Parce que Paul, comme il le dit aux Romains, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous n'avons donc aucune raison d'avoir honte. Une autre raison qui peut nous faire ressentir de la honte est notre relation avec d'autres chrétiens. Paul était prisonnier. Et il nous dit qu'il a été abandonné par beaucoup à cause de cela. Si avant, il était respectable à leurs yeux, maintenant qu'il est prisonnier, ce n'est plus le cas. Comment donc appliquer cet ordre de Paul de ne pas avoir honte? Premièrement, concernant l'Évangile, prenons délibérément la décision de tenir bon dans ce que nous croyons en parlant avec nos amis, nos familles, nos collègues. Facile à dire, pas facile à faire. Mais qui a promis la facilité? Paul a souffert pour l'Évangile et c'est clair qu'il prévoyait la même chose pour Timothée. Il ne faut pas souffrir parce que nous sommes des idiots qui ne savent pas quoi dire, comment le dire ou quand le dire, mais parce que le monde est hostile, simplement parce que le monde est hostile à ce message. Il est hostile à ce que nous proclamons et qui nous proclamons. Et on peut dire avec Paul, j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Notre regard porte plus loin, plus haut que ce que le monde pense de nous. Deuxièmement, pour soutenir ce qui précède, aimons-nous les uns les autres. Ça aussi, facile à dire, pas forcément facile à faire. Mais ne parlons jamais négativement des autres, ni dans l'Église, ni en dehors de l'Église. Protégeons la réputation des autres, et plutôt que de parler mal, édifions-les. Enfin, Paul encourage Timothée à garder la vérité. Retiens le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Paul semble dire en effet, Timothée, n'ajoute rien, ne change rien à ce que je t'ai enseigné, ce que tu as reçu est tout ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que Timothée a reçu? Et qu'est-ce que nous avons reçu? On a reçu l'Évangile. L'Évangile, c'est la promesse de la vie. C'est l'Évangile de la grâce de Dieu qui a décidé de nous donner que Dieu a décidé de nous donner à travers Jésus. Puis, comme le dit le verset 10, l'Évangile révélé par Jésus, c'est l'Évangile de la destruction de la mort par la croix. C'est l'Évangile de la vie et de l'immortalité, l'espérance de la gloire. C'est notre espérance et notre destinée. Paul nous enseigne à bien retenir son enseignement par la foi en Jésus et par l'amour pour Jésus. De plus, nous pouvons être assurés de l'aide de l'Esprit Saint pour garder la vérité. Mais pour retenir les saines paroles, encore faut-il les connaître. Ça paraît évident. Et donc, je veux vous encourager par là à lire la Bible. Vous en avez tous une, je pense. Plusieurs même. Oui. Donc, vous encourager à lire la Bible, à écouter l'enseignement que vous recevez, à prier. comparer cet enseignement à ce que les Écritures disent, comme les Juifs de Bérée le faisaient, et puis mettez en pratique ce que vous entendez, parce que vous avez la foi en Jésus, parce que vous l'aimez, parce que l'Esprit Saint vous habite et vous aide. Alors pour finir, je dirais que les encouragements de Paul à Timothée ne sont pas forcément une source de confort. Je doute que ça l'ait été pour Timothée, je doute que ça le soit pour nous. L'Évangile, c'est quelque chose de sérieux, qu'il faut prendre au sérieux. Alors que le Seigneur nous aide à travailler pour un héritage qui ne périra jamais, pas seulement pour des briques et du mortier. Bonne semaine à tous.